programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Laura et Liana sont de retour, comment ça va?
Ça va, super.
Et notre experte Anna Sara est aussi avec nous, elle présentera Panorama Ibero-Américaine d'ici 30 minutes, comment ça va?
Je vais très bien Julie et toi, comment
ça va? Très bien, très contente d'être ici. Et aujourd'hui au programme Culture, Sport, Musique et Arts Féministes, puisque nous avons avec nous Luciana Gransotto, comment ça va?
Très bien, merci. Je suis très contente d'être là.
On est très contente aussi de te recevoir. Luciana, tu es chercheuse en sciences spécialisée en sciences sociales, spécialisée en études de genre, et tu as créé le média et groupe Parcours Féministe.
Exactement.
Mais restez avec nous pour en savoir plus. Ce sera au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec notre chère Desgo. Hier, il a sorti un nouvel EP. Ça s'appelle Pour l'Histoire, saison 3. Il a sorti le clip de Seul ce jeudi. Et on se l'écoute tout de suite.
Mon âme à travers ce qu'elle accouche. Étant anxiogène, donc je me devais de faire un putsch. Pour décrocher la lune, suffit de la toucher. On l'a pointé du doigt, on a fini par loucher. On rêve grand, s'en sortir, c'est le leitmotiv chez moi. Mais pour se vider la tête, y'a que 20 chansons dans le MP3. On doit marquer, on doit se créer l'occasion. L'esprit libre rêve quand même d'évasion. Le temps passe plus vite que sur ma Casio. Et les souvenirs s'envolent comme les oiseaux. On va marquer, on va se créer l'occasion. L'esprit pisse, rêve quand même de baston. Euro dollar, ni l'odeur, ni le smell. Un jour de plus où rien ne change sous le ciel. Je suis seul, ouais. Même pas une larme pour m'accompagner. Parce que je suis seul, ouais. Même pas une larme pour m'accompagner. Je me refais le plan, bâtir un avenir meilleur comme un fils de maçon. Mais l'espoir c'est une drogue, pas une mode. Et c'est toxique comme des anciennes relations. Avec ce truc la vie se dégrade. On veut jouer pas voir le match du haut des grades. Mais je suis muet comme face à l'inspecteur. Quand les petits de ma ville répètent que la vie c'est une gâte. En face ils mentent quand ils disent que personne ne veut grandir chez moi. Vois l'amour qu'on a en se disant que tout le monde s'en sortira. On doit finir là-haut, ne plus voir les siens sur le carreau. Nos parents ont payé le Tao. Et je reprends la monnaie avec des mélodies de fado. Y'a que ça pour m'accompagner. Un mental qui vient affronter. Et ils veulent gâcher la photo. Mais l'écriture vient de Fontenay, l'inspiration vient de Porto.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Tempestade de Chponton. Et demain a lieu le concert de la grande guitariste portugaise Marta Pereira da Costa. Ce sera à 15h au théâtre de la ville Sarah Bernard, près de Châtelet. Et au sein de ce concert, elle présentera notamment son dernier album, Sem Palavras, mais aussi l'ensemble de son œuvre et de sa carrière. J'ai d'ailleurs eu la chance de réaliser une interview avec Marta dans le cadre de ce concert. Cette interview est dispo sur le site de Cap Magellan et le podcast Plus 351. Mais je vous laisse un extrait en lien avec le concert.
O feedback que eu tenho tido dos sítios onde tenho tocado é que as pessoas adoram do princípio ao fim, que é uma viagem, que realmente naquele concerto e naquele concerto a voz não fez falta. E a história foi contada de outra maneira. Portanto, é continuar a dar a conhecer e vai ficar uma coisa natural como já é noutros concertos instrumentais que existem com outros instrumentos.
Não, mas é verdade que até eu não estou habituada a ir ouvir música instrumental. Não é natural para mim. Eu tenho o hábito de ouvir cantores. E aliás, tu vais tocar no dia 14 de dezembro em Paris, no Teatro de la Ville. E o que é que representa para ti o Teatro de la Ville de Paris?
Poder atuar em Paris é um sonho. Eu já estava há vários anos a tentar uma oportunidade de apresentar o meu espetáculo em Paris, porque acreditava muito que o público iria gostar e gostava de ter essa oportunidade de dar a conhecer. Demorou algum tempo, por isso agora que está quase a chegar o dia, eu estou super ansiosa, eu espero que a sala esteja cheia, quero dar a conhecer ao número de pessoas que possam estar presentes, vou entregar tudo, preparámos um concerto muito bonito, só quero chegar e poder partilhar esse momento com todos.
Encore merci à Marta pour cette livrée à moi. Donc, pour rappel, Marta Pereira da Costa, c'est la première femme à s'être fait connaître comme guitariste portugaise, ce qui a permis d'ouvrir la voie à d'autres passionnés. Et au-delà du fado, elle explore de multiples styles. Alors, je ne suis pas en tôle discard porto, mais je vous recommande vraiment d'aller la voir et de l'écouter. D'ailleurs, Liliana, tu y seras, toi, demain?
C'est ça, Julie. J'ai vraiment hâte de découvrir son travail.
Vous connaissiez, vous, ici, le travail de Marta Pereira da Costa?
Non, pas du tout.
C'est la première fois, c'est une découverte.
Est-ce que tu as l'habitude d'écouter parce que toi, du coup, tu es brésilienne, tu écoutes plutôt de la musique brésilienne ou portugaise ou lusophone en général?
Brésilienne, surtout. Parfois, ça m'arrive d'écouter des musiques portugaises, mais c'est vrai que je suis pas, je connais pas trop la musique portugaise ni les artistes. Donc, c'est vraiment l'occasion de. Je vais voir s'il y a encore des billets pour demain.
Normalement, oui.
J'ai vu des affiches, c'est très joli.
Franchement, je pense que tu vas adorer. Moi, perso, la guitare portugaise, ça me fait pleurer quasi à chaque fois.
Ah, ouais.
Donc, je te recommande vraiment. Et j'espère que j'ai réussi à convaincre d'autres gens que toi. En tout cas, d'ici 5 minutes, Liliana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose donc d'écouter Casa Encantada de Marta Pereira Costa, mais avec Rui Veloso.
Do outro lado do monte, entre o cipreste e a fonte, cheguei à casa encantada. No grande salão vazio, janelas dão para o rio e as portas não dão para nada. Ao colo de um ancião, à sombra de um gavião, conversava com a lua e à luz de uma lamparina dançava uma bailarina muito branca e toda nua. Um palhaço de joelhos, deformado pelos espelhos, fazia rir o anão. Ao cimo da escadaria, a princesinha dormia, velada pelo dragão. Numa bandeja de luz, um menino de capuz serviu-me a água da fonte. E eu fiz a minha morada naquela casa encantada do outro lado do monte.
Sur Radio Alpha pour Themestadt de Spontan. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liliana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui?
On commence, Julie, par une bonne nouvelle pour l'économie portugaise. Selon The Economist, le Portugal s'est hissé en tête du classement des 36 pays les plus riches au monde en 2025. Le magazine britannique lui décerne le titre d'économie de l'année après l'analyse de plusieurs indicateurs comme l'inflation, la croissance du PIB, l'emploi ou encore la performance boursière. Le pays parvient à combiner forte croissance économique, faible inflation et bourse en hausse. The Economist souligne notamment le rôle majeur du tourisme en plein essor, ainsi que l'arrivée de nombreux résidents étrangers attirés par les conditions fiscales avantageuses. Résultat, une croissance du PIB bien supérieure à la moyenne européenne. L'année 2025 aura aussi été profitable aux investisseurs portugais, avec un marché boursier en progression de plus de 20%. Derrière le Portugal, on retrouve l'Irlande et Israël. L'Espagne partage la quatrième place avec la Colombie, suivie de la Tchéquie et la Grèce, confirmant la bonne dynamique de la croissance des pays du sud de l'Europe. A l'inverse, certains pays du nord, comme la Slovaquie, la Finlande ou l'Estonie, ferment le classement. Concentrons-nous maintenant sur le marché de l'art. Dans le cadre du Orçamento do Estado 2026, le Parlement portugais a approuvé la réduction de la TVA sur les transactions d'œuvres d'art, passant de 23% à 6%, une mesure longtemps attendue par les professionnels du secteur. Cette décision répond aux demandes répétées des galeristes, représentées notamment par l'association Exhibition, qui dénonçait une perte de compétitivité face aux autres pays européens. La ministre de la Culture, Margarida Balcells-Lopes, avait elle-même reconnu qu'une telle réduction était pleinement justifiée. Le Parti socialiste a insisté sur la nécessité d'appliquer ce taux réduit aux revendeurs enregistrés afin de répondre aux attentes légitimes du marché de l'art. Chega, de son côté, a souligné que le maintien d'un taux à 23% plaçait les galeries portugaises en situation de net désavantage. Bien qu'une directive européenne transposée en mars par un décret du gouvernement devait déjà permettre une réduction, celle-ci n'avait pas encore été appliquée dans la pratique. Entrée en vigueur le 1er janvier 2025, la directive européenne de 2022-542 vise à uniformiser le système de taxes sur la valeur ajoutée des États membres, qui utilisent jusqu'à présent un système complexe avec des valeurs différentes, et notamment pour celles appliquées aux œuvres d'art qui varient grandement. L'ancienne ministre de la Culture, Dalila Rodrigues, avait d'ailleurs déclaré que la baisse constituait une priorité et devait intégrer le prochain budget. Le retard de mise en œuvre a conduit à plusieurs protestations, notamment lors de la foire Arco Lisboa en mai. Dans le reste de l'Europe, les pratiques divergent. L'Espagne maintient un taux à 21%, tandis que la France avait réduit son taux de 20%. 5,500 et que l'Allemagne est passée de 19% à 7%. Ces évolutions, c'est la pression sur le Portugal pour aligner sa fiscalité sur celle des principaux marchés européens de l'art. Un sujet plus large également, mais culturel maintenant. Selon une étude récente d'Eurostat, 7,9 millions de personnes travaillent aujourd'hui dans la culture au sein de l'Union européenne. Cela représente 3,8% de l'ensemble des actifs, en hausse de 1,9% en un an. Mais qu'est-ce qu'un emploi culturel ? Eurostat en distingue trois catégories. On a d'abord les professions culturelles dans le secteur culturel, par exemple les danseurs dans une troupe, les journalistes dans un quotidien. On a également les professions culturelles dans un autre secteur, comme les designers dans l'automobile, mais également les professions non culturelles dans un secteur culturel, comme les comptables dans une maison d'édition. Cependant, il y a des disparités entre les pays. Par exemple, les Pays-Bas, avec 5,3%, et l'Estonie, 5%, figurent parmi les plus dynamiques. Et en bas de l'échelle, on a la Bulgarie avec 2,8% et la Roumanie avec 1,6%. La France se situe à 4,4% derrière le Danemark, mais devant l'Allemagne et le Portugal qui sont à 3,9%. Elle a gagné près de 1,3 million d'emplois culturels en 3 ans. Et seule la Belgique connaît une baisse continue sur la période 2021 et 2024. En plus, ce serait un secteur jeune, paritaire, mais encore précaire. Il y a trois tendances qui ressortent. Une parité presque atteinte. Les femmes représentent 49,6% des actifs culturels, avec des records dans les pays baltes, avec 60%. Et un niveau d'éducation élevé, parce que plus de 62% des travailleurs ont un diplôme supérieur contre 38,6% en moyenne. Mais cependant, il y a une précarité forte du secteur, avec 31,7% de personnes qui travaillent en freelance, jusqu'à 50% en Italie et aux Pays-Bas, et presque 30% au Portugal. Seuls 75,5% sont employés à temps plein. Pour le Portugal, il s'agit de 85,4%. Et en termes de CDI, on a 81,9%. Et certaines branches souffrent particulièrement, comme l'édition, qui a vu ses effectifs passer de 700 000 à 470 000 personnes en 3 ans. En résumé, on se trouve clairement entre des performances économiques remarquables, une nouvelle fiscalité avantageuse et plus incitative pour le marché de l'art portugais, et des dynamiques culturelles contrastées dans une Europe qui montre un visage à la fois prometteur et fragile. Et toi, Luciana, quelle a été ta nouvelle que je viens de citer qui t'a le plus surprise?
Déjà, la base d'impôts, c'est énorme, de 23%. Que,
Le taux de la TVA est passé de 23% à 6%, oui, pardon. Ce qui est une grande nouvelle pour le marché de l'art, parce que ça va inciter les personnes à acheter.
Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde gagne avec ça. Les galéristes, les artistes et aussi les personnes qui vont investir à l'art. Donc, c'est très bien pour moi. J'étais un peu étonnée que c'était 23%, donc c'est déjà énorme. Ouais. Et je suis curieuse pour savoir au Brésil quel est le taux. Parce que c'est vrai que ce sont des dynamiques différentes en Europe et au Brésil. Et, mais si... C'est bien, pour moi, c'est la bonne nouvelle.
Merci.
Merci beaucoup, Liliana, pour cette présentation. Il va falloir qu'on se renseigne effectivement sur le Brésil, mais ça, c'est plus la spécialité de Anna. On va y venir d'ailleurs juste après, puisque d'ici 5 minutes, ce sera Panulam Ibelo Americano. Et tout de suite, je vous propose d'écouter une nouveauté lusophone qui est sortie hier. C'est, je trouve, une collaboration entre Carolina de Deus et Jimmy P. Ça s'appelle Domingo à Noite.
Somos mais aquele par que faz parar a avenida. Não me sinto fama fatal que ao beijar-te fica perdida. Somos dois copos de cristal partidos à superfície. Se já não gostas, não tem mal ser feliz. Sempre tu disse: domingo à noite tu sozinho. Se te minto, eu já não quero. Mudo as apostas ao destino. O perdido eu já não espero. E se me pedes para ficar, eu já não te sinto. Se já nem chegas para jantar, eu não.
Conversas que temos e não nos... Porque hoje eu sei que nós estamos quebrados. Como as promessas que nunca cumprimos. Reservaste mesa para ausente, para me esquecer que eu existo. Eu queria bênçãos para nós, uma no teu ventre e ver o milagre de Cristo. Uma vida feita em pedaços, os dois à procura de espaço. Mas me voltasses, sabes que não dá porque é
domingo à noite, tu sozinho. Se te minto, eu já não quero. Mudo as apostas ao destino. O perdido eu já não espero. E se me pedes para ficar, eu já não te sinto. Se já nem chegas para jantar, eu não insisto.
A Rádio Alfa acompanha o seu dia de compras em direto e com as melhores sugestões.
Está na Rádio Alfa e estamos no Alfa Live com Sónia Marinho, que está em Leal do Portugal, em Saint-Cyr-l'École. Tudo bem, Sónia? Já almoçaste? Já comeste bem?
Já almocei, almocei muito bem. Um bacalhauzinho no forno, com umas batatinhas assadas, uma maravilha. E mais, experimentei também as rabanadas aqui do Leal de Portugal, no Rue du Pont de Dreux, 78-210, Saint-Cyr-l'École. E vou deixar já o número de telefone para poder efetuar as suas encomendas, que é o 01-39-4206. E as encomendas para o Natal serão aceitas até o dia 21 de dezembro. E para a passagem de ano, até o dia 28 de dezembro. Este supermercado está aberto no dia 24 e no dia 31 de dezembro até às 18 horas e também aberto no dia 25 de dezembro até às 13 horas. As suas encomendas, para efetuar as encomendas, então é o 01-39-42-06-22 e, por que não, aproveitar para encomendar já o seu leitão, o seu cabrito, o polvo, até mesmo o bacalhau. É isso mesmo, não perca tempo. E também venha até aqui, até o Leal de Portugal, em Saint-Cyr-l'École, porque as promoções que se fazem sentir são imensas, como por exemplo o azeite de galo a 29,99€, o bidão de 5 litros, e também a letria a 99 cêntimos, o arroz caçarola Carolina a 99 cêntimos também, e também as promoções de fim de semana, ou seja, só este fim de semana, o cabrito fresco a 9,99€ o quilo, o espumante ortigão, que na compra de uma garrafa, a oferta de segunda garrafa, o vinho verde casal da Bica, a caixa de 6 garrafas a 9,99€, como vê, aproveite todas estas promoções, e muitas mais que vão surgir também ainda. Faça já as suas encomendas. Padaria e pastelaria de fabrico próprio, o bolo rei e o bolo rainha, bolo escangalhado, bolo rei de chocolate, pão de ló, pão de Natal, o pão da avó, o famoso pão da avó, a bola de carne, o folar de carne, tudo isto já prontinho para ser servida em sua casa, mas para isso terá que deslocar-se até aqui para vir buscar aqui até ao Leal de Rue du Pont de Dreux, 78-210 Saint-Cyr-l'École, número de telefone é o 01-39-42-06-22, 01-39-42-06-22. E eu continuo por aqui à sua espera, até porque eu tenho brindes para oferecer.
Obrigada, Sónia. Guarda-me lá um brinde, se faz favor. Então, não se esqueça de ir ver a Sónia em Leal de Portugal, em Saint-Cyr-l'École, Rue du Pont de Dreux, para recuperar o seu brinde com a rádio que nos liga. Voltamos para o Tempestade 2.1. Estamos na rubrica Panorama Ibero-Americano com a Ana. Rádio Alfa. Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour Panorama Ibero-Americano. Alors Anna, qu'avons-nous raté ce mois-ci ?
Nous sommes en décembre 2025, un mois souvent riche en bilan de fin d'année, mais aussi en dernières secousses politiques, en symboles forts et en traditions qui continuent de rythmer la vie des peuples ibéro-américains. Cette année a été marquée par des enjeux multiples, politiques, climatiques, diplomatiques, sociaux, et ce mois de décembre en est une illustration parfaite. Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir les faits marquants du mois et ensuite prendre un petit peu de recul pour dresser le bilan global de l'année 2025. Commençons par le Brésil, où l'actualité judiciaire et politique continue de faire parler d'elle. Fin novembre, la Cour suprême brésilienne a ordonné l'exécution immédiate de la peine de 27 ans de prison prononcée contre l'ancien président Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État, après qu'il ait épuisé tous ses recours judiciaires possibles. Cette peine, l'une des plus lourdes jamais prononcées contre un ex-chef d'État dans la région, vise à sanctionner son rôle dans les événements du 8 janvier 2023, lorsque Brasilia a été envahie par des partisans tentant de renverser les institutions. Avant son incarcération ferme, Bolsonaro avait été placé sous bracelet électronique, surveillé et assigné à résidence nocturne. Cependant, fin novembre, il a reconnu avoir tenté de saboter ce dispositif électronique avec un fer à souder. Dans un geste que certains de ses proches ont décrit comme un épisode de paranoïa ou de confusion, les juges ont interprété cette tentative comme un réel d'évasion. Et l'ont donc transféré en détention provisoire pour raison de sécurité, mettant ainsi fin à sa période de surveillance électronique. Cette décision a précipité son entrée en détention ferme, marquant un tournant dans l'application de sa condamnation. Le 10 décembre, la Chambre des députés a ajouté un nouvel épisode à cette affaire spectaculaire en votant un projet de réduire significativement la durée de sa peine. Le texte permettrait notamment que certaines condamnations soient purgées simultanément. ce qui réduirait potentiellement son temps de détention à un an. Ce projet est présenté par ses partisans comme une voie vers la réconciliation nationale. Ses détracteurs, au contraire, y voient un risque de remise en cause du système judiciaire et une concession dangereuse à l'égard des forces politiques conservatrices qui s'identifient encore à Bolsonaro. Le Sénat doit encore se pencher sur ce texte et le président Lula aura le dernier mot s'il choisit de le valider ou de l'opposer à un veto. Juste au nord, au Honduras, la démocratie est également sous pression. Les élections du 30 novembre n'ont toujours pas donné de résultat plus d'une semaine après le vote. Les responsables électoraux ont repris le comptage après plusieurs jours d'interruption, montrant le candidat du Parti national, Nayib Asfula, légèrement en tête, mais avec une marge extrêmement étroite et plusieurs dizaines de procès-verbaux encore à examiner. Cette situation demande des accusations d'irrégularité et de manque de transparence dans le processus électoral. Par ailleurs, les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait publiquement soutenu Asfula, est menacé de couper l'aide si son candidat n'est pas élu, ont été perçues comme une pression directe sur le processus démocratique hondurien. Ces ingérences affichées ont intensifié des critiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, en ravivant les craintes d'influences étrangères, notamment américaines, sur un scrutin déjà très serré. La présidente sortante, Xiomara Castro, a dénoncé ce qu'on appelle un coup électoral, refusant de reconnaître des résultats qu'elle juge entachés d'irrégularité. Et certains de ses partisans appellent même à l'annulation pure, dure et simple du scrutin. Du côté du Venezuela, l'année s'achève sur un moment historique. L'opposante Maria Corina Machado, figure emblématique de la lutte pour la démocratie, a enfin pu se rendre à Oslo le 11 décembre, c'était jeudi, pour récupérer son prix Nobel de la paix en personne après une année passée en clandestinité au Venezuela, pour échapper à une répression accrue et à une interdiction de voyager. Machado, qui avait été empêché de se présenter aux élections présidentielles de 2024 et avait vécu caché depuis août, a réussi à quitter son pays dans des conditions extrêmement dangereuses, passant par une traversée par les Caraïbes avant de rejoindre la Norvège. Elle a fait sa première apparition publique lors de son arrivée à Oslo, saluée par des partisans rassemblés devant le Grand Hôtel, dans un contexte où le gouvernement vénézuélien avait même fermé son ambassade en Norvège en réaction à l'attribution du prix. Cette apparition est un signal fort de persistance et de l'opposition vénézuélienne. Depuis Oslo, Machado a réaffirmé son intention d'apporter son prix au Venezuela dès que les conditions de sécurité le permettront, réaffirmant son engagement pour la démocratie et les droits humains dans un pays en crise depuis plus d'une décennie. Au milieu de ces enjeux politiques et diplomatiques très lourds, il y a aussi les traditions culturelles qui continuent de rythmer la vie des peuples ibéro-américains. En Colombie, du 7 au 8 décembre, on célèbre El Día de las Velitas, la nuit des petites bougies. Cette fête traditionnelle en l'honneur de l'Immaculée Conception marque non seulement une fête religieuse importante, mais aussi le début officieux des célébrations de Noël. Durant cette nuit, des millions de Colombiens allument des bougies, des lanternes et des faroles dans les rues, sur les balcons et devant les maisons, créant un spectacle de lumière qui symbolise l'espoir, la paix et l'unité communautaire. Ce contraste entre des mouvements politiques intenses, des luttes pour la démocratie et des expressions culturelles profondément ancrées illustre bien la diversité de l'espace ibéro-américain en ce mois de décembre. Alors que 2025 touche à sa fin, il est important de prendre du recul pour faire un bilan des événements majeurs qui ont marqué cette année dans la région, ainsi qu'en Espagne et au Portugal. Du point de vue climatique et diplomatique, un des événements les plus marquants de 2025 a été la COP30 qui s'est tenue du 6 au 7 novembre à Belém, au Brésil, sous l'égide des Nations Unies. Cette conférence mondiale sur le climat a rassemblé près de 200 pays pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de Paris et de l'accélération des plans nationaux de lutte contre le changement climatique. L'un des résultats concrets a été l'engagement des États à tripler le financement destiné à l'adaptation climatique dans les pays en développement, un enjeu crucial pour les nations les plus vulnérables face aux impacts climatiques croissants. Cet événement a mis en lumière l'importance stratégique de l'Amérique latine dans les négociations climatiques mondiales, notamment pour la préservation de l'Amazonie, qui joue un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Dans la foulée de cette conférence, les relations transatlantiques ont également été mises en avant avec le 4e sommet EU-CELAC, qui s'est tenu les 9 et 10 novembre à Santa Marta, en Colombie, réunissant les dirigeants de l'Union européenne et ceux des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce sommet a été l'occasion de renforcer des liens politiques, économiques et sociaux entre les deux régions. Les discussions ont porté sur la coopération commerciale, la sécurité, la migration, la lutte contre la criminalité transnationale et la nécessité d'un multilatéralisme renouvelé. Les dirigeants ont souligné l'importance de renforcer la coopération sur les défis globaux partagés, en particulier dans les domaines du climat, du développement durable et des infrastructures. Sur les plans politiques internes des pays latino-américains, 2025 a été une année de forte récomposition et de tensions démocratiques dans les pays comme l'Honduras, mais aussi le Mexique, comme j'ai pu déjà l'analyser dans différentes chroniques sur cette année. Donc c'est vrai que sur le plan économique et social, une partie de la région a montré des signes de reprise malgré les défis mondiaux, mais les inégalités et les tensions sociales restent des réalités persistantes qui continuent d'alimenter le débat public dans de nombreux pays. Donc c'est vrai que des analyses récentes évoquent le risque d'une intervention militaire. Donc il y a ce contraste entre développement social, entre coopération économique, mais avec un risque très élevé au niveau diplomatique et aussi sécuritaire. Donc c'est ce contraste qui fait toute la région ibéro-américaine. En somme, l'année 2025 aura été une année de contrastes forts et de mutations profondes dans tout l'espace ibérique, entre coopération internationale, défis économiques, tensions sociales. La région a une nouvelle fois montré sa capacité à être un théâtre de grandes transformations et un acteur central des enjeux mondiaux. Ces dynamiques continueront sans doute de façonner son avenir dans les années à venir.
Merci beaucoup Anna, merci pour ce panorama encore une fois très intéressant. Je pense qu'on a tous appris des choses. Restez avec nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Luciana Gransotto. Avant cela, je vous propose d'écouter Lisboa Meninimos, le célèbre fado de Carlos do Carmo, mais cette fois interprété par la jeune Mariana Portugal, qui d'ailleurs, qu'on embrasse d'ailleurs, elle et toute sa famille, puisque je sais qu'ils nous écoutent. Elle a chanté en live de la Taberna Bell au Portugal, accompagnée par João Paulo de Vez à la guitare portugaise et André Sanch à la guitare classique. Thank you. Stade de Chponton sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour l'interview avec Luciana Gransotto. Luciana, tu portes une voix engagée qui met en lumière les femmes artistes et leurs créations à travers le média Parcours Féministe. Et de cette façon, tu crées des espaces et des moments d'échange et d'inspiration pour faire circuler leur voix et renforcer leur visibilité, rien que ça. Laura et Liana ont plein de questions pour toi, donc je vais les laisser faire.
Merci Julie. Du coup, Luciana, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours et ce qui t'a mené des sciences sociales et des études de genre à la création d'un média culturel féministe ?
Oui, très bien. Bon, merci encore. À propos de mon parcours, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai bougé un peu de travail, des métiers, mais je suis brésilienne, je suis née au sud du Brésil. J'ai eu une première formation en tourisme culturel et j'ai travaillé près de 8 ans dans l'organisation d'événements. Et par la suite, j'ai commencé à faire une deuxième partie de ma formation, qui c'est les masters et les doctorats. Au master au Brésil, c'est pas comme ici en France. Là-bas, c'est pas tout le temps, mais on a l'habitude de travailler un peu après la fac. Et après, au fil du temps, on décide de reprendre les études et faire les masters. Et ensuite, s'il y a la possibilité de faire les doctorats. Et moi, j'ai réalisé un master en culture et patrimoine. Après, j'ai fait mon doctorat dans le domaine des études des genres. Donc, c'était un doctorat qui s'appelle Doctorat interdisciplinaire en sciences humaines. Et là, j'ai fait, c'était plutôt dans le domaine de l'histoire, avec cette perspective des études des genres. Et j'ai fait une recherche sur une historienne. Finalement, c'était une thèse, pas une biographie, mais c'était une thèse sur une historienne du sud du Brésil, de Porto Alegre, qui est venue en France dans les années 90 pour faire ses études, et elle a pu créer une grande liaison intellectuelle entre la France et le Brésil. Et après, pas seulement elle a créé des contenus, elle a publié plusieurs livres là-bas, elle a fait des traductions, mais aussi elle a pu avoir des échanges académiques internationaux pour l'autre femme chercheuse pour pouvoir venir ici en France à faire ses études. Donc à cette époque, 90 et 2000, c'était pas une chose très naturelle de venir ici faire un postdoc ou faire une autre recherche. Et donc ça, c'était très important pour moi de faire cette recherche, parce que là, j'ai commencé vraiment à immerger dans l'actualité de la migration. À l'époque, mais aujourd'hui. Et en 2022, je me suis installée à Paris. C'est aussi un peu grâce à elle. J'ai décidé de faire un postdoc à Paris 8. C'était le sujet sur les femmes immigrantes, les femmes brésiliennes qui sont venues depuis 2016, après les coups d'État au Brésil. À cette époque, les coups d'État contre Dilma Rousseff, la présidente en ce moment. Donc j'ai fait pas mal des interviews sur les expériences d'immigration avec des femmes intellectuelles, mais pas que, des activistes, militantes, étudiantes. Et dans ces moments-là que j'ai suis tombée passionnée par la ville, et après j'ai décidé de vraiment m'installer ici à Paris.
Et du coup, quel était ton déclencheur pour créer ton média Parcours Féministe, et comment tu décrirais un peu sa philosophie, sa ligne éditoriale?
Oui, très bien. Oui, à cette période, j'ai participé déjà à de nombreuses programmations culturelles, en privilégiant toujours les événements qui mettent en lumière les artistes femmes. Et malgré leur présence très importante à Paris, j'avais un constat, c'est pour moi, c'est très clair, peut-être que c'est ça, c'est déclencheur pour créer le projet Les Médias Parcours Féministes. C'est beaucoup de créatistes, elles sont là, elles étaient là, mais elles restent encore très peu visibles, peu nommées, peu racontées. Et donc, c'est à partir de ces constats qui s'est né le projet. Et en tant que chercheuse, je pense que les projets, c'est un mélange entre mes études, ma formation en organisation d'événements, enfin, les tourismes, aussi en tant que chercheuse et professionnelle de la culture. Et donc, j'avais envie de faire circuler, de valoriser et soutenir le travail des femmes artistes. Donc, c'était comme ça, en 2022, que j'ai créé. Au début, c'était en portugais. Après, j'ai changé. Je mettais en portugais et français. Mais finalement, j'ai décidé de faire tout en français. Donc, aujourd'hui, c'est un média français. Et parce que, bon, il n'y a pas seulement des personnes de Brésil. Au contraire, je pense qu'il y a aujourd'hui de toutes nationalités. Et les femmes brésiliennes de l'Amérique latine parlent français, donc ça parle à elles aussi.
Et comment s'est construite la communauté autour de Parcours Féministe et qu'est-ce qui, selon toi, a favorisé cet engagement de la part de ta communauté?
Oui, au début, bon, j'aimerais faire un type de partage d'expériences individuelles pour avoir donné envie aux gens d'aller dans des événements ou même des parcours, des visites guidées, par exemple, qui parlent sous les histoires des femmes. Et donc, j'ai commencé à faire une chose qui, encore aujourd'hui, j'ai continué à les faire. Et c'est de manière un peu personnelle, parce que c'est ma perspective féministe. Donc, c'est toujours quand j'ai fait une sélection d'activités, c'est mon regard par rapport à l'activité. Donc, c'est pas seulement parce qu'il y a des femmes qui sont impliquées dans un événement, dans une activité, un spectacle, mais aussi les sujets, les lieux d'accueil, tout un engagement par les acteurs et actrices impliqués. Et j'ai commencé donc à partager mes expériences. Ça veut dire, j'ai fait encore des publications, notamment sur l'Instagram, qui parlent, par exemple, d'une exposition qui ça me tient à cœur et qui j'ai envie de parler. Et j'ai fait à chaque mois une sélection, 3-4 agendas avec des solutions, surtout des expositions, spectacles, musique et théâtre. Et c'est pas facile de faire cette sélection parce qu'il y a pas mal de choses à Paris et aussi au bon lieu. J'ai un bénévole aujourd'hui, ça fait quelques mois. Elle m'aide aussi à faire un petit tri. Et après, j'essaye toujours d'aller voir surtout les spectacles de théâtre pour après parler, parce que si après aujourd'hui la communauté elle a bien grandi. Au début en 2023 c'était 1000 personnes, 1000 abonnés, et là c'est 9000. Ici en communauté bien engagée, donc c'est pas énorme par rapport à d'autres créateurs et créatrices de contenu, parce que moi je me considère un peu une créatrice de contenu, c'est un média, mais en même temps ce sont des gens engagés, donc si les publics c'est vraiment varié. Je crois que c'est aussi des personnes alliées, curieuses de la création contemporaine, des militantes, des associations féministes, mais aussi des artistes. Donc ça englobe un public un peu plus général.
Et au sein de ce média, comment est-ce que tu fais pour gérer les récits moins visibles ou inclure des femmes, par exemple, de communautés marginalisées? Comment est-ce que tu leur donnes une place?
Oui, ça, c'est l'une des plus... les objectifs les plus importants pour moi, c'est pas seulement de parler des projets qui sont vraiment intéressants, mais aussi de donner la place pour les artistes qui sont... très peu parlé. Et au fil du temps, j'ai commencé à créer un réseau avec des institutions culturelles. Et ça, c'est très bien parce que moi, je cherche, mais aussi je suis cherchée. Les institutions, surtout les théâtres, parce qu'à Paris, il y a 1 million de théâtres et il y a beaucoup de groupes des femmes artistes, des femmes du milieu du spectacle vivant, qui m'y demandent de faire. Bon, elles m'envoient un dossier presse pour savoir de quoi parle les spectacles. Et je vais faire toujours des recherches. Et pour les artistes, après, je vais vous raconter un peu mieux. Pour les clubs, quand on fait les visites en présentiel, j'essaye de rencontrer les femmes avant, de savoir un peu son parcours. Et donc, pour moi, c'est côté international, la diversité, l'inclusivité, c'est vraiment les points clés de ma perspective pour sélectionner et après faire la diffusion.
Merci beaucoup, Luciana. Nous allons continuer donc cette interview dans d'ici 5 minutes autour de la scène culturelle féministe aujourd'hui et de tes initiatives coordonnées à Paris. C'est déjà très riche ce que tu nous as expliqué. Mais avant cela, nous allons écouter une musique que tu as choisie, qu'on adore tous d'ailleurs. C'est la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan.
Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'eau.
Radio Alpha. Hoje, a Rádio Alfa acompanha o seu dia de compras em direto e com as melhores sugestões.
Continua na Rádio Alfa, estamos em Alfa Live com Sonia Marino, que está em Lial du Portugal de Saint-Cyr-l'École. Tudo bem, Sonia?
Tudo ótimo. Aqui o ambiente está excelente. É só carrinhos de compras a passar por mim. Cheios, porque realmente vale a pena aproveitar o Leal de Portugal aqui no Rue du Pont de Trot, 78210 Saint-Cyr-l'École, está a fazer umas excelentes promoções este fim de semana, como por exemplo o cabrito fresco a 9,99€ o quilo, o espumante Ortigão na compra de uma garrafa, oferta da segunda garrafa, o vinho verde Casal da Bica, a caixa de 6 garrafas a 9,99€. E o arroz caçarola carolino, também a 99 cêntimos o quilo. A letria também está em promoção, a 99 cêntimos. E o azeite galo, 5 litros, a 29,99€. O azeite até ao final do mês de dezembro vai estar em promoção. A não esquecer, para efetuar as suas encomendas de Natal e de passagem de ano, pode fazê-lo através do 01 39 42 06 22 01 39 42 06 22, e podem encomendar o seu bolo rei, rainha, escangalhado, bolo rei de João de Ló, Natal, arroz com pão da avó, bolo de carne, folar de carne. Mas estas encomendas devem ser realizadas, as que forem para o Natal, devem ser realizadas até o dia 21 de dezembro e para a passagem de ano até ao 28 de dezembro. Este supermercado está aberto no dia 24 e no dia 31 de dezembro até às 18 horas e no 25 de dezembro até às 13 horas. Mas não hesite, venha até aqui, até o Diário de Portugal, e aproveite as belas promoções, as fantásticas promoções do fim de semana, que são realmente muito boas. Eu vou continuar aqui e volto mais daqui a um bocadinho. Leal de Portugal, Rue du Pont de Vaux, 78210 Saint-Cyr-l'École, número de telefone 01 39 42 06 22. Até já!
Muito obrigada, Sónia. Até já. E não se esqueça de ir ver a Sónia para ter um brinde de Natal em Ilhéus du Portugal, Saint-Cyr-l'École, rue du Pont de Dreux. Nós voltamos já no Tempestade 2.1 para a entrevista com a Luciana. Rádio Alfa. 15h05, vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Tempestade 2.1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec Luciana Gransotto.
Alors, Luciana, je voulais un peu maintenant parler de la scène culturelle féministe aujourd'hui. Quel regard tu portes sur la place des femmes dans la musique, au moins française, aujourd'hui ?
Ça c'est une bonne question, et même si en question c'est un sujet un peu complexe parce que quand on parle des femmes programmées, ça veut dire des artistes femmes dont les œuvres sont effectivement présentées dans le théâtre, les festivals, les galeries ou les institutions culturelles de manière générale. C'est vrai que on pense toujours plus il y a des femmes artistes, mais c'est vrai que qu'il y a toujours une limite de visibilité et aussi même des projets de subvention et environ globalement environ 30% de ces espaces, ils sont occupés pour les femmes artistes. Les femmes artistes et créatrices sont par exemple les metteuses en scène, les actrices, comédiennes, les danseuses, et aussi au milieu du cinéma, c'est encore pire. Et j'ai lu, ça fait quelques semaines, c'est encore pire dans ces derniers temps, les artistes. Donc c'est vrai que c'est pas une chose... moi, je suis toujours... j'ai l'espoir parce que quand je vois des femmes sur scène et avec des projets engageants et qui s'appellent et ça nous donne beaucoup d'énergie pour la vie. Donc c'est j'ai envie de continuer à faire ça, mais il y a toujours les côtés socio-économiques symboliques qui pèsent, même dans une ville comme Paris qui a d'investissements sur la scène, même des jeunes artistes sont émergentes, mais c'est vrai que c'est pas facile, et sortir des récits dominants et faire la place à des histoires situées et incarnées, accueillir des formes hybrides politiques et intimes, c'est pas une chose qui est naturelle, homme-femme, la parité elle n'est pas encore là.
Et est-ce que, selon toi, tu as remarqué, selon les formats artistiques, des récits, des corps ou même des voix qui restent encore plus absents dans l'espace de diffusion culturelle ?
Oui. Par exemple, je sens que pour le milieu des arts, la peinture, par exemple, il y a beaucoup de femmes artistes qui viennent de différents pays, qui sont installées à Paris. Une grande partie, j'ai dit ça avec mes propres expériences, des rencontres avec elles, me disent que c'est difficile, par exemple, des femmes qui n'ont pas une formation dans des grandes écoles. Donc comme ça, si des femmes qui sont artistes comme autodidactes, et même si elles ont un travail incroyable, par exemple pour participer d'une exposition dans une galerie ou même d'un festival, il y a toujours des critères, et même s'il y a la motivation d'être égalitaire, d'avoir la parité, c'est pas tous les temps qui sont... Il y a toujours ces côtés de différenciation entre les femmes qui ont fait, ont parcouru en formation plus classique et d'autres qui viennent d'autres types de milieux, de cultures et qui restent encore invisibles.
Et est-ce que récemment, t'as constaté quand même des évolutions positives ? Est-ce qu'il y a des signaux qui t'encouragent à continuer ?
Ah oui. Moi, je suis passionnée pour les théâtres, par exemple, et de plus en plus, je vois une scène qui montre la réalité des femmes. Par exemple, j'aimerais bien vous conseiller, même si c'est presque fini, un spectacle qui s'appelle Médusée, qui a lieu au théâtre ouvert dans les 20e et qui réinvente la figure des méduses pour parler avec force et aussi sensibilité des violences faites aux femmes, de la parole qui se libère et de la possibilité de transformer la colère en amour, en justice, en puissance collective. Donc ça, ce sont des choses qui donnent force pour continuer et je vois qu'il y a un public, un jeune public qui assistent à ce type de spectacle. Et je pense que ça parle beaucoup. Et c'est un exemple des modèles, des références qui sont importants pour, après, quand on sort d'une pièce de théâtre qui parle des violences, des choses vraiment qui sont dures, mais qu'il faut parler. Peut-être que ça change. Je pense que tout le monde change un petit peu. Après, c'est comme un voyage, qu'on n'est pas la même personne quand on arrive. Je pense que pour les spectacles, même pour des expositions, c'est un peu comme ça.
Bah, merci beaucoup, Lucienne. En tout cas, ça m'a donné envie de voir cette pièce. Donc, peut-être qu'on va s'y rendre. Et on revient d'ici moins de 2 minutes. On va écouter Bagne de Foyesh, que tu as choisi aussi, de Luigi Luna. Mm-hmm.
Quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta. Mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, oh, oh. Para a rádio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patuli. Para a rádio, bete branca, aça peixe, abre caminho.
Alors, du coup, on va reprendre cette interview avec Luciana. Et du coup, cette fois-ci, j'aimerais parler un peu plus du club Parcours Féministe, parce que en plus de ce média, c'est aussi un club. Quel est, en quoi il consiste et comment il est né ?
Bien. L'année dernière, j'ai participé avec le projet Parcours Féministe. J'étais sélectionnée par une agence qui s'appelle Créatrice, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Source. C'est un programme d'accompagnement destiné aux femmes entrepreneuses dans le secteur culturel. Et cette expérience a été déterminante pour moi parce que c'était à ce moment-là que j'ai commencé à mieux structurer cette idée de club parcours féministe qui a vu le jour en avril cette année. Donc l'idée, c'est, pour moi, c'était très clair, sortir du numérique, de notre boule online, pour aller vers les réels, de partager vraiment les expériences, avoir un collectif de ce type d'expériences. Donc le club a été pensé comme une extension vivante de médias parcours féministes, un espace de rencontres, d'expérimentation et de partage. Et j'ai conçu comme un espace inclusif, donc ça veut dire et sûr et inclusif. Donc il n'y a que des femmes. Et ça, c'est l'une des choses que je vais vraiment garder pour avoir cet espace safe. Et les clubs, ils tissent des liens entre l'art et féminisme. Donc ça, c'est le but principal. Tout en mettant en lumière la diversité des expériences, des pratiques et des parcours artistiques. Et il repose sur un esprit des communautés, des sororités aussi, où l'échange et la transmission occupent une place centrale. Donc, c'est pas seulement la transmission des artistes vers nous, mais aussi entre nous. Et les clubs, ils proposent concrètement des découvertes privilégiées, donc les coulisses de la création, à travers des visites d'ateliers d'artistes, des galeries et des lieux inspirants. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir une nouvelle visite, c'est la 20e visite, je crois, depuis qu'on a commencé. C'est une visite autour du travail de Viviane Sagnier, un dialogue avec Sonia Delaunay, dans un envie de faire dialoguer les générations et les trajectoires et les formes artistiques. Et donc, il y a des découvertes. Donc, j'organise toujours des sorties avec l'accueil de l'artiste et même des commissaires des expositions. Comme j'ai fait des partenariats, des collaborations avec des institutions culturelles, il y a aussi des avantages exclusifs auprès de ces partenaires. Donc, j'ai fait des tirages au sort. Il y a aussi des réductions des pièces de théâtre, des expositions pour la communauté. Aussi, à chaque mois, j'ai créé des soirées conviviales et thématiques. La dernière fois, c'était en dégustation féministe des vins naturels, donc pour privilégier les vignerons. Donc, on a fait la dégustation avec quatre cuvées. Et on a parlé aussi de ce monde, des femmes au monde de vin. Et aussi, on a un groupe privé, c'est vraiment un community forum, qui en partage. Et il y a des femmes de tout âge, des 25 ans jusqu'à 70 ans. Nous sommes 33, je crois, aujourd'hui. Et... mais bon, et ça, c'est l'idée globale de partager toutes ces expériences, soit en ligne, soit en présentiel.
Ça a l'air d'être une super communauté, en tout cas, mais qu'est-ce que tu en apprends, toi, des personnes qui suivent le média ou même qui participent au club ?
Qu'est-ce que j'apprends ? Ouais, j'apprends tous les temps, tous les jours. Je ne suis pas une spécialiste d'art. Même si j'ai fait un master en culture et patrimoine, j'ai mis ça toujours un peu la médiatrice. Une médiatrice, un pont entre les publics et les artistes. Et c'est vrai que de plus en plus, ça me donne envie de visibiliser ces types de parcours. Et on apprend, et j'ai dit pas seulement moi, parce que c'est les profils des filles, des femmes qui font partie du club aujourd'hui sont très variés. Il y a des artistes professionnels, des artistes amatrices, amatrices et dit qui sont en train de prendre les chemins professionnels, mais elles n'ont pas encore les moyens parce que bon, c'est compliqué. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont rien à voir avec l'art, en tant que métier, la profession, mais qui sont toujours intéressées à faire des découvertes. Et donc, on a toujours un espace convivial après la visite. Et c'est ça qui est très bien parce qu'on ne parle pas seulement d'art ou même de l'expérience qu'on vient de voir, mais aussi de nos parcours professionnels, personnels. Donc, ça commence à créer des liaisons et des amitiés. Et c'est vraiment... ça renforce nos projets. Donc, c'est très enrichissant.
Et du coup, est-ce que tu as des projets futurs pour Parcours Féministe et son club? Est-ce que tu as d'autres initiatives qui sont en cours?
Oui, c'est vrai que j'ai lancé, ça fait quelques mois, mais j'ai pas eu de temps de continuer. Ça, c'est parce que ça prend du temps, mais j'aimerais prendre l'année prochaine. C'est des interviews avec les artistes. Donc, j'ai déjà fait trois, donc une série des interviews pour parler de son parcours et aussi voir comment elle travaille, quelles sont l'ambiance, une grande partie, par exemple, des peintres, elles ont son propre atelier, mais peut-être que parfois c'est chez elles. Et donc j'aimerais bien d'y montrer un peu un autre perspective de la vie des artistes. Donc là, si je peux, l'année prochaine, ça sera l'un de mes projets pour Parcours Féministe.
On a de voir ça.
Oui, et j'avais une dernière question. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment on rentre dans le club et est-ce que tout le monde peut rentrer dans le club Parcours Féministe?
Oui, tout à fait. Toutes les femmes qui sont curieuses de l'art contemporain, ou même pas que, mais qui sont intéressées à l'art, et aussi discussion avec des perspectives féministes. Mais c'est pas nécessaire d'être un artiste, ou c'est pas nécessaire d'être déjà, d'avoir déjà, d'avoir déjà beaucoup d'expérience dans ces domaines. Et c'est facile, j'ai un site, c'est justement le parcours féministe. Il y a un espace qui c'est club. Il y a trois types d'abonnements. Donc la personne, elle peut soit rester un seul mois pour tester, soit 6 mois, soit 1 an. Et en faisant partie du club, il y a tous ces éléments que j'ai déjà parlé. Normalement, c'est 2 à 3 sorties par mois. Et donc, vous êtes les bienvenus pour venir quand vous voulez. Et de temps en temps, j'invite des personnes qui ne font pas partie du club, justement pour connaître un peu mieux. Et après, un jour, si elles veulent faire partie, elles sont bienvenues.
Bah, merci beaucoup, Luciana, pour tes réponses et pour ton projet. Je trouve que c'est super important. Merci de l'avoir fait. N'hésitez pas à aller suivre, du coup, Luciana sur Parcours Féministe, sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Et allez visiter le site, bien évidemment. Mais restez avec nous. Luciana, tu restes aussi avec nous. On est en direct jusqu'à 16h. Et d'ici 5 minutes, on parle de sport. Rien à voir, du coup. Et avant cela, tu as choisi une dernière musique. C'est Ua Mortada de Amanda Magalhães.
Mais
Stade de Chponton sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport. Et on commence par le foot. Nos équipes portugaises sont toujours en lice au sein des Coupes d'Europe. Ce mercredi 10 décembre, Benfica s'est relancé en gagnant 2-0 contre Naples, permettant donc d'espérer une qualification pour la Ligue des Champions. En poule de Ligue Europa, ce jeudi 11 décembre, Porto a gagné 2-1 contre Malmö et Braga a gagné 1-0 contre Nice. Toujours dans le foot, la sélection nationale de football pour les athlètes avec une déficience intellectuelle est championne du monde pour la 8e fois consécutive. En futsal, les Portugaises se sont sacrées vice-championnes du monde ayant perdu 3-0 contre les Brésiliennes. Les athlètes féminines lusophones brillent donc en futsal. Et on passe au judo, la grande Patricia Sampaio obtient la médaille d'argent lors du Grand Slam de Tokyo dans la catégorie moins de 78 kilos. En surf cette fois, le jeune André Moraes a gagné le Eurokids 2025 en sub-10 à seulement 10 ans. Il devient le premier Portugais à devenir champion d'Europe dans cette catégorie. En gauche, Salgado obtient une médaille de bronze au 8e mémorial Celia Barkin Arozamena en Asturie, une épreuve qui compte pour le World Amateur Golf Ranking. Et on termine avec le cyclisme sur piste. La star portugaise Yuri Leitão est arrivée deuxième des 6 jours de Rotterdam. Il était en duo avec le néerlandais Joeri Havik. Encore une semaine riche en victoires pour nos athlètes portugais qui montrent aussi la diversité des sports et des profils où la lusophonie brille. Et juste après, ce sera Arte Yandesh avec Laura. Et tout de suite, on s'écoute le dernier single de la légende Gims. C'est Incognito avec R2.
Et quand j'arrive, tu sens le froid avant l'hiver. J'essaie de t'oublier à base de somnifères. Ma vie, tu vas comprendre, tu vas t'y faire. Et je suis toujours en train d'encaisser. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville, mais t'es mal bolide, je peux pas passer incognito. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville, mais t'es mal bolide, je peux pas passer incognito. Accompagné de 2-3 incognitos, je suis trop cramé pour passer incognito.
On a fait le top, tous les TG, on va t'expliquer le plus instant. Drop top, sur le rooftop, apparemment elle aime tous les méchants. J'arrive bien, j'arrive plein, lumière flash sur nous. On voit que l'assassin, j'ai pas besoin de découper. Énervé, je lâche un vrai couplet. Ça va ma journée, j'aime tous les diamants que j'avais pour que tu brilles de mille feux. Elle me dit qu'elle veut manger la vie, je vais la capter en piano. Elle me dit qu'elle préfère quand c'est R de mec qui sur le piano. Y'aura pas de petit amour.
Kelly full croco, on s'est peut-être connu trop tôt. 3 secondes, 08, let's go. Encore en train d'encaisser. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville, mais t'es mal bolide, je peux pas passer incognito.
Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville.
Estado dos Pontões na rádio que nos liga, estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, quem apresentas hoje, Laura?
Hoje vou falar de uma artista portuguesa que conseguiu fazer aquilo que muitos de nós só tínhamos visto nas mãos das nossas avós, mas em grande e nas ruas. Porque se eu pegasse numa linha e numa agulha, o máximo que conseguia era cozer os meus dedos uns aos outros, mas ela não. Ela transforma ponto cruz em arte urbana. Sim, hoje mergulhamos no universo de Aenia, também conhecida como Ana Martins, uma artista portuguesa que decidiu que o mundo precisava de um bocadinho mais de paciência e de precisão. Enquanto estudava design gráfico, percebeu que podia misturar o que é a tradição ensinado com a sua própria visão contemporânea e assim começou a desenvolver um trabalho muito original, bordados gigantes transformados em instalações públicas feitas com milhares de metros de lã e centenas de pregos ou parafusos que seguram cada obra na sua estrutura. Imagina olhar para um muro cinzento e ver surgir ali, com fios coloridos e formas delicadas, algo que nos lembra os bordados que vemos em casa, mas em tamanho XXL. É isso que ela faz. Peças que parecem bordados transformados em esculturas ou em instalações, muitas vezes expostas ao ar livre, para que todos possam ver, tocar e sentir. O trabalho de Aenia já passou por várias cidades e festivais em Portugal, Espanha, França, Reino Unido e muito mais. Aliás, ela mora em Nova Iorque. Sempre num diálogo com o espaço urbano e com as pessoas que o atravessam no dia a dia. O mais interessante no seu trabalho é esta conexão entre o mundo artesanal e o mundo contemporâneo. Ela explora uma técnica tradicional que normalmente associamos a momentos tranquilos em casa e a coloca num contexto urbano, muitas vezes imenso, colorido, vibrante, e não trabalha só lá. No seu site encontramos instalações que exploram materiais como tecidos repensados, fios, fibras naturais e até bioplásticos, criando esculturas que jogam com a ideia de suave e duro, estruturado e fluido. É como se a própria matéria estivesse em movimento. Cada obra de Aenia é um exercício de paciência, mas também de comunicação. Ela costuma trabalhar com frases curtas, palavras ou símbolos que se destacam na paisagem. Muitas das suas instalações são quase como mensagens públicas, bordadas, poéticas, gráficas, às vezes íntimas, outras vezes quase como um bilhete deixado para quem passa. E essa simplicidade textual funciona muito bem quando está ampliada em centenas de fios coloridos. Para nós, só são paredes. Para ela, são telas perfuradas, prontas para bordar. O nome artístico, aliás, Aenia, nasceu de uma brincadeira com as letras do seu nome real e ficou como assinatura, algo simples, pessoal, e ao mesmo tempo marcante, quando encontramos uma obra sua no meio de uma rua ou num grande mural. Então, o que é que torna este trabalho tão significativo? Talvez seja a maneira como ela faz-nos parar por um segundo, ver a textura do fio, a cor, a repetição e pensar no tempo e na dedicação que cada peça exige. Em tempos em que tudo parece rápido e digital, a Aenia lembra-nos do valor do artesanato, do cuidado, da paciência e transforma isso em algo que não só vemos, mas sentimos quando caminhamos pela cidade. E é por isso que quando olhamos para uma obra sua, não vemos só lã, nem só técnica, vemos tempo, gesto, memória, vemos a tradição a respirar no mural, a ganhar cor, escala e movimento. Ela aborda a cidade como quem escreve uma carta aberta ao mundo, ponto a ponto, ideia a ideia. E no meio da pressa do cotidiano é quase um convite a abrandar, a olhar duas vezes e, quem sabe, até apreciar aquela parede que antes passava despercebida. No fundo, a Aenia prova que basta um fio de imaginação para transformar o que é comum em algo extraordinário. E isso, caro ouvinte, nem a minha avó consegue fazer em tamanho gigante.
Muito obrigada, Laura. Acho que hoje temos uma temática de artistas femininas, não é?
Completamente. Genial.
E nós voltamos daqui a 5 minutos para Alpha Live antes dos Bon Plan, mas primeiro deixo-os com o último single de Rita Rocha, é Volta Atrás.
Acabamos nós mais uma vez. Passa lá por mim, finge que não me vês. Que não fomos mais nada eu ouvi dizer. Faz lá com ela o que nós costumávamos fazer. Os teus amigos disseram, mas eu não os ouvi. E a culpa é minha, desculpa se acredita em ti. Nunca disseste, mostraste que gostavas de mim. E a culpa é minha, desculpa se presumi que sim. Mais uma vez vais acabar com ele para me ver. E no início já sabes que eu não vou responder. Não a correr, mas a passo rápido eu vou lá ter. Sabes que no fim volta tudo a mim. Em tudo o que sinto, em tudo o que diz, em toda a verdade de todos os mitos. E que o tempo apaga, mas luz nos riscos. Que no fim volta tudo a mim. Que no fim volta tudo a mim. Mesmo que não queiras, é despair. Depois pedir, repetimos as neiras. Só que afasta os teus medos, somos na cama. Somos amor obsessivo, mas da melhor maneira. Volta atrás, só no início por voltar atrás. Com o que eu digo, vale, deixa-me ir. Posso ir, mas fico, sabes que no fim volta tudo a mim. Em tudo o que faz, em tudo o que diz, em toda a verdade de todos os mitos.
Hoje, a Rádio Alfa acompanha o seu dia de compras em direto e com as melhores sugestões.
Continua na Rádio Alfa, estamos no Alfa Live. Sónia Marinho, continuas em Leal do Portugal de Saint-Cyr-l'École, está tudo bem?
Está tudo ótimo, eu continuo aqui, não saí daqui, aqui no Leal de Portugal, Rue de Pondreau, 78210, em Saint-Cyr-l'École. Número de telefone é o 01 39 42 06 22 01 39 42 06 22. E claro, já estou aqui bem perto da pastelaria, da padaria de fabrico próprio, aqui do Leal de Portugal, onde o bolo rei, o bolo rainha, o bolo escangalhado, o bolo rei de chocolate, o pão de ló, o pão de Natal, o pão da avó, a bola de carne e o folar de carne já estão aqui também a fazer, marcar presença, e com muitas encomendas. E para efetuar as suas encomendas, não se esqueça, é através do 01 39 42 06 22. E para o Natal, as encomendas que se dirigem destinam ao Natal terão que ser efetuadas até o dia 21 de dezembro, e para a passagem do ano até o dia 28 de dezembro. O supermercado vai estar aberto no dia 24 e no dia 31 de dezembro até às 18 horas e no dia 25 de dezembro até às 13 horas. Mas não hesite, até porque venha hoje mesmo, ou venha este fim de semana mesmo ao Leal de Portugal, porque o cabrito fresco é 9,99€ o quilo, o espumante Ortigão, na compra de uma garrafa, oferta da segunda garrafa, o vinho verde Casal da Vica, a caixa de 6 garrafas, é 9,99€, e só este fim de semana. Por isso, apresse e venha. Atenção que as bebidas alcoólicas devem ser bebidas com moderação. Também na parte da mercearia, o azeite de galo de 5 litros a 29,99€, mas esta promoção estará até ao dia 31 de dezembro, e a letria a 99 cêntimos. O arroz caçarola também, Carolino, a 99 cêntimos o quilo. É não perder, são promoções fantásticas que pode perfeitamente vir fazer as suas compras aqui ao Leal de Portugal, São Cirlecol, e também aproveitar estas belas promoções. Também pode aproveitar para comprar já o seu jantar, e as sugestões do dia é o bacalhau assado no forno, o frango assado, a carne de porco alentejano, bacalhau à brás, rojões de porco, os pés de porco grelhados, massa com frango, massa com fiambre, arroz de atum e aqueles pãezinhos recheados com frango, entre muitas e muitas outras sugestões para hoje. Não hesite, venha até aqui. Eu vou ficar por aqui no Leal de Portugal, Rue du Pont de Dreux, 78210 Saint-Cyr-l'École. Telefone é o 01-39-42-06-22. Esta semana fico por aqui e regresso na próxima semana com mais promoções. Por isso, até para a semana.
Obrigada, Sónia, até para a semana. E não se esqueça ainda de vai a tempo para ir até Leal du Portugal, rue du Pont de Dreux, em Saint-Cyr-l'École, e fazer as suas encomendas de Natal no 01-39-42-06-22. Voltamos para o Tempestade 2.1 e os bons plans. Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Thémestade de Chponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, hier, un nouvel épisode de Plus 351 est sorti. C'est un nouvel épisode du format Lusotalk, et cette fois c'est entre Lourdes et Sophie en portugais. Thémestade de Chponton et Plus 351 veulent connaître vos habitudes d'écoute et vos suggestions. Nous avons réalisé un questionnaire dont vous retrouverez le lien en story. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cap Magellan lance une nouvelle édition de sa campagne de sécurité routière destinée à sensibiliser les voyageurs qui se rendent au Portugal en voiture. Cette année, nous cherchons des ambassadeurs pour nous aider à diffuser des messages de prévention de manière authentique, vivante et sur la route. Nous cherchons des personnes qui prévoient de partir au Portugal en voiture pour Noël ou le Nouvel An et qui seraient prêtes à partager quelques photos, vidéos ou stories Instagram de leur trajet, mettre en avant avec nous les bons réflexes de sécurité et collaborer avec Cap Magellan pour montrer que voyager prudemment, c'est aussi prendre soin de ceux qu'on retrouve pour les fêtes. Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à événements avec un S @capmagellan.org et n'hésitez pas à partager l'info. Pour les événements à venir, à Santa Casa de Misericórdia de Paris, je lance sa campagne de Noël. Elle collecte des conserves, de la nourriture qui se garde comme du riz ou des pâtes, ainsi que des produits pour bébés et produits d'hygiène et nettoyage. Vous avez jusqu'à demain pour donner. Toutes les informations sont sur le site Misericórdia de Paris.org. Marta Pereira da Costa est de retour à Paris demain à 15h au Théâtre de la Ville de Paris. On vous l'a dit, prenez vos places. Et ce lundi 15 décembre à 19h, rendez-vous à la librairie portugaise et brésilienne rue des Fossés Saint-Jacques à Paris pour assister à Monsieur Armand Lee Garicha, d'après le monologue de Serge Valetti, interprété par Frédéric Faure et Antoine Gauthier. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Thémestade de Chponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Lucena.
Merci à vous. C'était un grand plaisir.
On a adoré te recevoir. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller consulter le site Parcours Féministe, à te suivre aussi sur les réseaux sociaux Parcours Féministe. Est-ce que tu veux laisser un petit message de la fin, des petits bisous à quelqu'un?
Oui, j'envoie un grand abraço aux auditrices et aux auditeurs de la radio, et aussi à la communauté de mon média Parcours Féministe, et à vous quatre. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis vraiment très contente. Je sors d'ici avec plein de bonnes énergies. Donc, merci. J'espère vous retrouver bientôt, peut-être dans une sortie de club.
Ah, ah bah, ça serait super, franchement. Bah, merci à toi d'être venue, de nous avoir ensoleillé cette journée. Je pense que tu nous as ramené un peu de la chaleur du Brésil sur Radio Alpha. C'est, je pense que ça nous a vraiment fait du bien. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller suivre Parcours Féministe sur les réseaux sociaux, à aller consulter le site, vous inscrire au club et à mettre en avant l'art féminin finalement dans toute sa splendeur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Et on se laisse donc avec la dernière musique de One Republic. Elle est sortie hier. Ça s'appelle Give Me Something. Bonne semaine à tous.
Salut, à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Au revoir.
Switch the light, crack the door. Started wishing, found a mission. Break a glass, ring the bell. Superstition, but I've been wishing for someone that I can see with my humanity in the mirror. Just a little clearer. Just think of the warning signs. I see the good eye, yes, nearer. I won't shed a tear. I look for gold. When it turned to rust. I look for faith. If it leads to us. Give me something. Somewhere to grow, somewhere that I know. I'm chasing the glow. Give me something, someone to love, someone to count these stars above. Give me something. Tell me lies, make it up. Paint the picture, take me with you. I don't care what you say, I'm making a different day. Somewhere to grow, somewhere that I know. I'm chasing the glow. Give me something, someone to love, someone to count these stars above. Give me something, give me something.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.
Esperava mais de ti. Esperava mais de nós. Dizem-me que parti, que nos deixei a sós, que estou entregue ao vento que o tempo é veloz. Esperava mais de ti, esperava mais de nós.
Quando eu queria, tu não querias, não voltava e tu pedias. Sem ter medo, eu temia que voltasse a ser igual. Prometias e eu ouvia, mas depressa não cumprias. Se eu ficasse, tu fugias no final. Mas se perguntares ao tempo quanto é que durou o momento, pedes-me 80 ou 40. E se avanças eu tropeço, apareces e acontece. Se me esqueces preto e branco eu sou cinzenta.
Ah, o medo dá má sorte, dá má sorte. Ah, o medo dá má sorte, dá má sorte. Esperava mais de ti, esperava mais de nós. Dizem-me que parti, que nos deixei a sós. Que estou entregue ao vento, que o tempo é veloz. Esperava mais de ti, esperava mais de nós. Se nos deixasses ver, onde podemos estar, para onde nós crescer.
outro tem de mudar, mas quem já foi levou.